Studio Kalango au rythme du Niger. Mesdames et messieurs, fidèles auditrices, auditeurs du Studio Kalango, bonsoir et bienvenue au Forum de la Presse, le rendez-vous hebdomadaire des journalistes à Studio Kalango. Trois sujets ont dominé l'actualité cette semaine. D'abord, l'éducation. La rentrée scolaire 2024-2025 a eu lieu lundi passé sur l'ensemble du territoire national. Une rentrée scolaire boycottée par certains syndicats des enseignants. Nous en parlerons. À suivre dans ce forum, la signature d'un accord de partenariat entre le gouvernement nigérien et la société Starlink, le fournisseur d'Internet par satellite pour son installation au Niger. L'actualité, c'est aussi cette triste nouvelle, la disparition de Hama Amadou, l'ancien premier ministre, également ancien président de l'Assemblée nationale du Niger. Pour commenter et analyser tous ces faits, je reçois avec plaisir ce soir Hassan Boukar. Bonsoir Hassan, vous êtes journaliste alternatif.
Bonsoir.
Maimouna Jado, elle est journaliste indépendante. Bonsoir Maimouna.
Bonsoir.
Le doyen Hussein Issa est avec nous. Bonsoir, doyen.
Bonsoir, Ternan.
À la modération, je suis Ternan Foudé Ahmed. La technique sera assurée ce soir par Amina Hassan. Le forum de la presse, c'est dans un instant. Nous allons démarrer ce forum de la presse avec la rentrée scolaire. Après 4 mois de vacances, les élèves et enseignants ont repris le chemin de l'école lundi passé pour la rentrée scolaire 2024-2025. Ensemble, nous avons suivi cette rentrée. Hassa Abba, quelles sont vos impressions par rapport à cette rentrée scolaire?
Merci beaucoup. Alors, pour moi, un des enjeux de cette rentrée, c'est la question des acteurs de l'éducation. L'année dernière, on a eu une année plutôt stable. La question, au vu des déclarations qui ont précédé la rentrée, la question c'est jusqu'où les acteurs vont accompagner l'administration dans cette rentrée-là. Alors, vous l'avez un peu dit en introduction, certains ne sont pas associés à la rentrée, mais la rentrée officielle a eu lieu. Ça a eu lieu au moment où ce qu'on a connu comme forte précipitation, les inondations qu'on a connues ont un peu baissé, puisque la saison des pluies elle-même elle a baissé. Et donc, ça a permis de faire une rentrée peut-être meilleure qu'on aurait pu la faire le 1er octobre. Évidemment, il y a toujours les critiques qu'on entend de la part des acteurs, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres, sur les fournitures, la suffisance ou non, le fait que l'acheminement des fournitures a un peu traîné dans cette zone. Il y a toujours ces critiques que l'on connaît, mais globalement, la rentrée officielle a eu lieu. Et comme les années passées, à mon avis, au fur et à mesure des jours, des semaines, les choses, j'espère, vont rentrer dans l'ordre. Mais encore une fois, j'insiste, je pense qu'une des clés de l'année scolaire, puisqu'à partir de la rentrée, il faut pouvoir implémenter les cours, il faut pouvoir suivre l'année normalement. C'est aussi la question des acteurs. Il y a eu beaucoup de questions qui ont été évoquées par les acteurs, notamment les contractuels, tous ces engagements pris par l'État, les années antérieures qui n'ont pas été respectées. Parce que la stabilité, elle est liée à ça. Et donc, si le gouvernement prend le soin de discuter avec les acteurs, évidemment, bon, petit à petit, à partir de la rentrée, on peut aller vers une année stable.
Yeah. Hassan Abba, il y a quelques semaines de cela, lors d'un forum de la presse, vous avez dit que ce mois, le mois de report, n'était pas un mois de repos pour les autorités, ça devait être un mois de préparatifs. Est-ce qu'on constate quelques évolutions durant ces mois de repos?
Tout à fait. Je pense que pendant les semaines qui ont précédé la rentrée, on a vu, en tout cas du côté de l'éducation nationale, la ministre sillonner les régions, aller parler avec les acteurs, aller parler avec les autorités régionales, parler même avec des opérateurs économiques qui sont en charge de la construction des classes, que ce soit à Tawa, à Zander, à Maradi. Ça montre justement que les autorités ont compris qu'il faut préparer davantage. Comme je le disais, un mois c'est court, hein, parce que j'imagine qu'il y a encore des classes qu'on n'a pas fini de construire, parce qu'on s'engage et c'est au fur et à mesure que les choses se font. Je pense qu'on a vu quelques actions sur le terrain. Maintenant, c'est avec le temps qu'on va mesurer l'effet réel de tout cela sur l'année scolaire.
Maimouna, à votre niveau, certainement vous avez suivi l'actualité relative à cette rentrée scolaire. Est-ce qu'elle a été effective?
Elle a été
effective officiellement, puisque c'est ce qu'on veut nous faire comprendre, que la rentrée a été effective, mais je ne dirais pas que la rentrée a été pleinement effective. Pourquoi je dis ça? Parce que la rentrée, elle a été effective dans les communes, dans les départements. Mais est-ce que ça a été effectif dans le monde rural? Parce que c'est en fait là l'enjeu. Il y a jusqu'à présent des villages qui n'ont pas fini, terminé de faire les récoltes, qui n'ont pas encore non seulement arrangé l'endroit qui devrait servir d'école pour les enfants. Est-ce que véritablement le matériel a été acheminé jusque là-bas, les fournitures scolaires? Et il y a eu également une... on dirait que ça a été timide, même du côté des fournitures scolaires, parce qu'avant, on faisait un tapage autour de la réception de ces fournitures scolaires. On faisait toute une série de reportages.
Oui, justement, par rapport à ça, à la télévision nationale, nous avions vu un reportage avec des camions qui partaient à l'intérieur du pays, surtout les régions les plus éloignées comme Agadez, Diffa. Je ne sais pas si vous avez...
Non, j'ai vu ça. Mais je dis, ce que je suis en train de dire, c'est en fait très timide. C'était pas comme avant. Et là, je vous assure que le matériel qui a été acheminé, ça ne peut rester qu'au niveau des communes. Ils mettent d'abord l'accent dans ces communes-là pour pouvoir distribuer les cahiers. Même si c'est un seul cahier par élève, l'essentiel, c'est que l'élève puisse dire que j'ai eu un cahier. Mais est-ce qu'ils ont pensé à ceux qui n'ont pas l'accessibilité, même avec leurs moyens, pour pouvoir payer ces fournitures scolaires? C'est ça le gros problème. Donc, ça veut dire qu'il y a eu des écoles qui sont inondées. Et je suis sûre qu'il y a des écoles jusqu'à présent qui sont inondées et qui n'ont pas été encore reconstruites. Il y a des écoles où à peine les sinistrés ont quitté. Mais est-ce qu'il y a eu réfection au niveau donc, de ces classes-là? Je sais que dans beaucoup de villages, il n'y a pas jusque-là des classes qui ont été construites parce que c'est une période de récolte et ça veut dire que la rentrée scolaire pour ces enfants-là pourrait aller jusqu'à mi-novembre. Donc, ça veut dire que nous, on ne peut pas dire que c'est effectif.
Monsieur Issa Hussein Ijibo, vous aussi, vous avez suivi cette rentrée scolaire, des classes ouvertes, des parents qui font les transferts pour leurs enfants. Selon vous, c'est une rentrée académique ou plutôt c'est une rentrée politique?
C'est plus politique qu'académique. On a fait une rentrée politique. Tout le monde sait la situation dans laquelle on se trouve. Tout le monde sait que, y compris dans la capitale ici, il y a des gens encore qui sont dans les classes. Il fallait faire juste une rentrée parce qu'on a décalé une première fois, au lieu du 2 octobre, on a ramené ça au 28, n'est-ce pas? C'est un enjeu. Comment créer les conditions? Parce que tout simplement, quand on parle de tournée de ministre, machin, tout ça, ça ne règle pas les problèmes. Cette année, on a fait ce qu'on a pu faire. On a pu donner, machin, semble-t-il un cahier par élève. Ça pose un sérieux problème. On parle de l'école. On ne parle pas de vendre des cacahuètes ou des arachides. Je suis d'accord qu'on est dans un contexte difficile, n'est-ce pas? Mais on doit se donner le minimum de moyens pour pouvoir créer les conditions pour que, quand on dit c'est la rentrée, que partout. Mais parce que tout à l'heure, Mémona vient de dire quelque chose. Les gens ne retiennent pas ça. Il y a des localités, des zones reculées, où jusqu'en janvier, Elle a parlé de novembre. Jusqu'en janvier, j'ai fait des reportages jusqu'en janvier, février. L'école n'a pas débuté.
Vous pouvez nous donner l'exemple?
Non, je ne peux pas vous donner parce que c'est beaucoup, j'ai beaucoup d'exemples. Je ne peux pas me rappeler des localités, des zones où j'ai visité. On me dit que l'école n'a pas commencé. L'enseignant même n'est pas arrivé. L'école est restée fermée jusqu'en janvier, février. C'est quelque chose que j'ai vécu, que j'ai connu et que je peux défendre. C'est bien beau de dire, bon, on fait la rentrée. Je suis d'accord, on est dans un contexte difficile. Ça, tout le monde le reconnaît. Mais je veux dire une chose, c'est que, bon, il faut dire, il y a eu rentrée. Les gens, tout le monde est satisfait, il faut faire la rentrée parce qu'on ne peut pas dépasser le délai là. Mais après.
Dans les zones impactées par l'insécurité, quelques départements ont pu effectuer
laisse
cette rentrée.
Laisse tomber les zones là.
Voilà. Donc pour mieux comprendre, on va essayer d'écouter M. Abdoulaye Almou, qui est l'inspecteur d'enseignement primaire de Torodi.
Cette année, ici à Torodi, nous avons 38 écoles fonctionnelles, dont 3 privées. En effet, en temps normal, nous avons 146 écoles, mais pour des raisons d'insécurité, 108 ont été fermées. Et vous avez constaté avec nous que toutes ces écoles que nous avons visitées étaient pleines d'élèves qui ont reçu des fournitures que l'État a mis à leur disposition, ainsi que des kits donnés par l'UNICEF. Nous attendons incessamment les comptes rendus des différents responsables des 38 écoles pour faire la situation globale de cette rentrée. Car en ce qui concerne la ville même, nous savons que toutes les écoles ont effectué leur rentrée et les élèves ont reçu leur fourniture.
Voilà, donc nous allons continuer. Maintenant, à ce niveau, quels sont les obstacles à part l'insécurité?
C'est l'insécurité. Mais c'est quoi d'autre? C'est l'insécurité qui a mené la fermeture des écoles. Urgelayo, c'est à une cinquantaine de kilomètres. Il n'y a pratiquement pas d'école. Dans la région de Tillabéri, quand on fait le compte, il y a beaucoup d'écoles qui sont encore fermées. Il y a des écoles qui ont été incendiées, n'est-ce pas? Bon, dans ce contexte-là, parce que ma préoccupation essentielle, les enfants des campagnes là, il faut aussi qu'ils puissent étudier. Il faut qu'on leur donne la possibilité, qu'on crée les conditions pour qu'ils puissent étudier, parce qu'il y a beaucoup qui sont intelligents, mais par l'insécurité, ils sont obligés d'arrêter. Il y en a qui ont quitté l'école dans cette zone-là, 4-5 ans. Ils ne sont plus retournés à l'école. J'ai fait des reportages autour de la question et ça me choque.
Selon vous, quels sont les défis qui s'imposent aux autorités pour le déroulement de l'année scolaire dans ces zones?
Dans les zones d'insécurité. Oui. Mais c'est d'assurer la sécurité de ces élèves-là. S'ils veulent que ces élèves-là puissent continuer à étudier jusqu'en fin d'année, ça veut dire que il faut assurer, garantir cette sécurité et la sécurité alimentaire. C'est les deux défis pour l'État. La sécurité et la sécurité alimentaire. Parce qu'un enfant ou les parents n'ont pas de quoi subvenir à leurs besoins, vont toujours laisser la zone-là pour une autre zone quand il n'y a pas cette sécurité au sein de cette zone-là. C'est ça, en fait. Maintenant, ils ont eu l'idée de réouvrir certaines écoles. Mais il faut aussi la présence des forces de défense et de sécurité autour. Je ne dis pas qu'on peut sécuriser chaque école, mais faire en sorte que les écoles qui ont été ouvertes soient encore sécurisées et qu'il y ait la patrouille ou bien les patrouilles qui peuvent en tout cas faire des relais.
Voilà, on va revenir peut-être sur cette question. Hassan Abba, selon vous, quels sont les défis à relever dans ces zones? On sait qu'il y a les écoles de regroupement, il y a la question de sécurisation des enseignants eux-mêmes et surtout de ces écoles. Est-ce qu'au-delà de ces défis, vous pensez à d'autres?
Je pense que les problèmes de l'école sont énormes, sont profonds. Je pense qu'Hossein et Memouna en ont largement parlé. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on pense que la transition peut réfléchir à dire quelle est la solution qui est à notre portée aujourd'hui? Dans une émission précédente, on avait déjà dit qu'on a eu beaucoup de réflexions sur l'école, au point où on se demande si c'est vraiment nécessaire de mener, puisqu'on a à peu près, on sait d'où viennent les problèmes. La question de la sécurité, c'est une question globale. Il faut forcément travailler à la régler. On a la question de l'insuffisance du corps enseignant. En fait, le corps enseignant est largement insuffisant. Autant on peut trouver des classes avec un, deux, peut-être trois enseignants. À Niamey, les gens en parlent quelquefois. Autant en région, vous avez toute une école où vous avez un seul enseignant. Vous avez donc ces difficultés-là.
Il faut faire le redéploiement.
Voilà.
Donc, le redéploiement de ces enseignants-là.
Donc, il y a la question du personnel sur le terrain. Il y a, comme vous le dites, la question de regroupement, la question de gens qui enseignent, la question de la qualité de l'éducation, parce que on n'a pas suffisamment d'enseignants qualifiés. Et donc, du coup, quelquefois, le seul souci des gens, c'est qu'il y ait quelqu'un dans la salle. Bon, quelqu'un, ce n'est pas un enseignant. C'est-à-dire qu'on veut qu'il y ait en face des élèves quelqu'un qui tire la craie. Ce n'est pas forcément un bon enseignant. Il y a, mais ces questions, elles ne peuvent pas se régler tout de suite. On ne les règle qu'à moyen et à long terme. Mais pour les régler, il faut faire le premier pas. C'est-à-dire, aujourd'hui, dire, OK, le contrat, on l'a essayé, des partenaires nous ont poussé, la Banque mondiale, etc., nous ont dit, un enseignant coûte cher, on a fait le contrat, on l'a essayé. Tout le monde sait aujourd'hui que ça ne marche pas, le contrat. Et donc, maintenant, si on s'est dit, on arrête, que va dire le gouvernement? Le gouvernement va dire, OK, je mesure combien ça me coûte comme argent de créer des postes budgétaires pour confirmer ceux qui sont contractuels au niveau de la masse salariale.
Mais est-ce que vraiment les autorités ou bien le gouvernement a le pouvoir de les faire?
Mais bien sûr qu'ils ont le pouvoir. Si on ne peut même pas faire ça, on ne parle plus de souveraineté. Quoi. Je pense que la souveraineté, ça commence à l'école pour moi. La souveraineté commence à l'école parce que c'est l'endroit où vous planifiez, où vous réfléchissez à l'avenir d'un pays. C'est-à-dire que, encore une fois, le problème est tellement immense, on ne peut pas le régler tout de suite en un an, en deux ans. Mais, quelles que soient les chances qu'on se donne, il faut bien qu'on commence. Et, j'insiste encore, je pense que j'ai eu l'occasion de le dire une autre fois, il faut qu'il y ait un consensus sur la question. Il s'agit de l'école. On ne parle pas des questions politiques, on ne parle pas d'autres questions. Il s'agit de l'école et donc il s'agit du pays. Il faut bien qu'il y ait un vrai consensus pour dire, tout le monde sait que ça ne va pas, si on veut changer, puisqu'il n'y a pas d'alternative à l'école, ça on sait, hein, pour un pays, c'est l'école ou l'école, il n'y a pas d'autres alternatives. Et donc, pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir de ce pays, trouvons le chemin sur lequel on peut faire un minimum de consensus et donnons-nous les moyens pour aller vers ces résultats. À mon avis, c'est ça qu'on peut faire. Sinon, les défis, on peut les citer à longueur de journée, ça ne va pas finir. Il y en a énormément à l'école.
Il faut également mettre fin à cette histoire de COGES là où on chasse nos enfants là à cause de 2000 francs, 2000, on leur dit d'aller. Oui, c'est très important. Parce que COGES là, on n'a jamais dit de chasser un élève. On a dit à tes parents d'amener. Mais quand tu n'as pas amené...
Est-ce que les frais de la COGES sont obligatoires?
Les frais de COGES, ils ont dit que c'est obligatoire puisque c'est pour soutenir l'école. Ok, d'accord. Je dois payer 3000 francs pour mon enfant. J'ai 5 enfants qui fréquentent ou 3 enfants qui fréquentent le même établissement.
C'est ça.
Ça veut dire que non seulement, nous, à notre époque, COGES, on ne connaissait pas COGES, mais on sait qu'on nous prenait 1000 francs. Quand tu amènes 1000 francs, on te donne toutes les fournitures, c'est-à-dire les livres. On te met les manuels à ta disposition. En fin d'année, tu ramènes et on te donne tes 1000 francs. Mais maintenant, du jour au lendemain, cette affaire de COGES est venue en train de troubler jusque dans les plus profonds sommeils des parents. Puisque même dans les villages, il y a des enfants qui ont été, en tout cas, renvoyés à cause de COGES. C'est quoi renvoyer, je dis, quand un parent ne peut pas donner l'argent de COGES et qu'on dit que parce que l'enfant n'a pas donné l'argent de COGES, on ne peut pas lui donner son bulletin pour qu'on sache si elle a travaillé ou il a travaillé ou il doit passer. Il faut que les parents amènent ça. Mais je vous assure, là-bas, là, il y a des parents qui ont dit que le jour où on a demandé à ceux que les enfants amènent là, eux, ils ont dit, viens t'asseoir à côté de moi, tu ne retournes plus à l'école. Parce que COGES est en train de faire vraiment... COGES n'est pas en train d'arranger, mais COGES est en train de faire fuir les élèves et leurs parents. Donc, cette histoire de COGES, il faut que la ministre de l'Éducation là essaie d'avoir un œil regardant sur cette situation-là où on met le bureau COGES, ou bien je ne sais pas, ils ne savent pas en tout cas le rôle qu'ils doivent jouer, mais au lieu de dire juste tu as tel mois pour pouvoir régulariser, mais on te force la main pour que tu amènes, et si on n'amène pas, c'est ton enfant même qui est un peu désorienté, puisque c'est, aujourd'hui ça fait mal qu'on vienne dans une classe et qu'on dit Un tel, vous n'avez pas versé COGES. C'est une honte.
Voilà, c'est sur ces propos de Maimouna. Et nous allons observer une petite pause avant d'entamer la deuxième partie de ce forum. Les mardis passés, le ministre nigérien de la communication, Sidi Mohamed Raliou, a annoncé à la télévision nationale la signature d'un accord de partenariat entre le gouvernement du Niger et la société Starlink, le fournisseur d'Internet par satellite dont l'utilisation était jusqu'ici interdite dans les pays. Hussein Issa, comment peut-on accueillir cette nouvelle?
Ça fait joie, mais on nous vole, on est en train de nous voler, tous les opérateurs. Pratiquement nous volent, n'est-ce pas?
Mais vous achetez.
Non, ils nous volent.
Vous payez les forfaits, vous payez data, ce n'est pas.
Et du quoi vol. Ça? On fait quoi?
Vous payez
data, laisse tomber. Tout ça, c'est de l'arnaque. Tout ce qu'on est en train de vivre. On te dit que tu as forfait, machin. On nous vole. Et moi, je suis content quand j'ai entendu. Parce que cette compagnie voulait s'implanter depuis. Les autres se sont opposés. Parce qu'ils savaient que quand la compagnie va s'implanter, ça va être un problème pour eux. Aujourd'hui, c'est un opérateur qui est là, qui va faire la facilité, qui va permettre aux consommateurs directement de prendre son abonnement de l'autre côté, à son niveau. Mais est-ce qu'il y a mieux que ça? Celui qui produit ça, il me donne ça directement, dans la sous-région, que ce soit au Bénin, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Mali, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Il n'y a pas un endroit où la connexion Internet, le téléphone, même le téléphone coûte plus cher comme au Niger.
Mais qu'est-ce qui explique cela?
Mais les gens sont venus, ils se sont implantés, ils font ce qu'ils font, ils veulent. On avance des choses, on dit non, tu as bonus machin qui n'est pas respecté. Tu me donnes bonus, laisse-moi consommer d'abord le bonus. Pendant que tu m'as donné bonus, je ne sais pas si c'est le bonus que j'ai consommé ou... C'est que j'ai mis. Alors, moi, j'ai dit, je suis content. Je suis content que le ministre Raliou décide de faire venir Starlink. Je vais d'un principe. Aujourd'hui, que ce soit la téléphonie, que ce soit l'Internet, c'est pas un luxe. C'est pas le luxe. Ce n'est plus le luxe. Ça a dépassé. Mais aujourd'hui, le téléphone, même dans les campagnes les plus reculées, tout le monde a un. Tu peux appeler, il est de l'autre bout du monde, à l'autre bout du monde, il peut t'appeler, il va échanger. Je vais l'informer de quelque chose qui s'est passé dans le village, je vais l'appeler, il va décrocher, on va échanger. Ce qu'il peut faire, il va faire.
Voilà, mais selon vous, non. c'est une nécessité.
Ce n'est plus qu'une nécessité, c'est comme la nourriture qu'on mange. C'est pas un luxe. Quand les opérateurs locaux n'ont pas compris qu'il faut agir sur les coûts pour faciliter, quand on amène un opérateur qui est prêt à faciliter, il y a des pays où quand dans la rue même tu peux te connecter. Dans la rue, tu n'as pas besoin. Dans la rue, il y a des zones quand tu rentres dedans, parce que tout simplement c'est free, c'est gratuit. Tu mets ton téléphone, il y a plein de pays où, dans la sous-région, je ne parle pas d'ailleurs, dans la sous-région, où tu communiques, parce qu'on considère que ce n'est pas un luxe.
Voilà, nous allons revenir sur cette question. Hassan Abba, qu'est-ce que vous pensez de cette technologie? Est-ce qu'une alternative au problème d'Internet au Niger, où seulement 32% de la population a accès à Internet actuellement, selon les données de l'autorité de régulation de communication électronique et de la poste?
Vous le dites si bien, je pense que c'est une bonne solution, comme Hussein l'a rappelé. Internet est un produit de première consommation aujourd'hui, c'est-à-dire le développement va avec Internet. On parlait de site de l'éducation. Un bon usage d'Internet permet aujourd'hui de régler beaucoup de problèmes dans l'éducation, beaucoup de problèmes dans la santé. Nous sommes un pays agricole. Grâce à Internet, on peut régler beaucoup de choses. Donc, je pense que c'est un outil indispensable aujourd'hui pour le développement. Et le fait que le Niger puisse faire ce pas, à mon avis, c'est quelque chose d'extrêmement important. Pendant des années, on a essayé avec les opérateurs actuels pour essayer d'améliorer. Je pense que les consommateurs se sont beaucoup plaints, mais l'État n'a pas forcément bien joué son rôle parce que ces sociétés amassent des clients, mais ne veulent pas investir davantage de façon à ce que l'accès soit beaucoup plus fluide. Et donc, du coup, ça fait quelque chose d'extrêmement difficile. J'espère que au moins maintenant, là, les gens ont le choix, ce qu'ils veulent, ils iront là où c'est meilleur. C'est aussi ça la concurrence, hein. Je pense que ça va peut-être pousser les autres à s'amender. Et même si la téléphonie maintenant, c'est-à-dire que ce qui n'est pas Internet, le reste aussi, il faut que les sociétés arrivent à s'amender. Là où Sénil l'a rappelé, dans les autres pays, les choses ne se passent pas comme ça. Vous avez une autorité, vous avez un exécutif qui fait que chacun doit jouer son rôle autour des cahiers de charges bien donnés. Et donc là aujourd'hui, et dans un pays vaste comme le nôtre aujourd'hui, avoir la possibilité de communiquer facilement avec Dirkou, avec Ifirouan, c'est vraiment une grande chance pour ce pays. Mais là, évidemment, il faut bien discuter, il faut qu'on ait des contrats assez clairs qui garantissent les intérêts de ce pays et tout ça. Vous savez, le domaine de la communication, c'est aussi, on parle beaucoup de souveraineté, c'est un domaine extrêmement sensible pour la souveraineté d'un pays. Donc, en partie, vous donnez une partie de votre souveraineté à une société privée. C'est vrai, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour la régulation de ces sociétés à l'international, pour qu'on ne puisse pas faire l'usage qu'on veut, n'est-ce pas, de toutes les possibilités qui sont offertes grâce à ça. Mais encore une fois, pour l'instant, je pense qu'accéder à Internet à haut débit, ça va faire beaucoup de bien au développement de ce pays.
Même on a beaucoup pensé que Starlink est une menace pour les opérateurs locaux. D'autres pensent que c'est une sorte de concurrence qui va booster aussi la capacité de ces opérateurs locaux. Est-ce que vous partagez cet avis?
Peut-être qu'à leur niveau, ils vont se ressaisir. Parce que là, on n'a jamais eu une concurrence entre les opérateurs de téléphonie mobile ici au Niger. C'est les mêmes jours qu'on utilise pour faire les mêmes forfaits. C'est-à-dire que si tu fais forfait de ce côté, c'est la même chose de ce côté, c'est la même chose. Donc, il n'y a pas de concurrence.
Et vous savez, je reprenne ça avant que tu le consommes.
Voilà, voilà. On te montre que si tu fais 1000 francs, tu as 2 gigas, bonus, tu as 1 giga, et on te dit 3 jours. Et ce qui est encore pire, c'est que c'est au moment où tu as 2 gigas que l'Internet est instable. C'est-à-dire que pas possible, hein, d'utiliser tes 2 gigas là pour faire le travail que tu veux faire. On te retire l'argent et le forfait. On vient, ça te reste 1 giga. Avant que la semaine ne finisse là, le jour où ça va finir, un vendredi, on va encore t'enlever les 1 giga qui restent là. Et tu seras obligé encore de faire forfait. Et là où encore c'est encore ridicule, c'est quand tu as 500 gigas. C'est là où l'Internet là, est accessible rapidement. Tu vas consommer, on va te dire un opérateur.
Pas bonus, c'est où, quand il
non,
s'agit de.
Quand il ne s'agit pas de bonus, hein, tu as 500 comme ça, tu as fait seulement 500. C'est là où tu vas voir que l'Internet là, c'est vraiment stable. Et il y a même ceux qui se permettent de te dire que tu viens de consommer tel. 75%.
Et ça finit vite.
Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Comment est-ce que tu peux expliquer que tu es avec des partenaires en visioconférence? C'est instable et tu es obligé. Maintenant, tu ne peux plus continuer. Et c'est arrivé à des moments où, aujourd'hui, dans la sous-région, ce sont tes confrères de la sous-région qui te disent « Mais votre connexion est instable ». C'est comme ça, on te dit c'est instable. Essaie de voir un autre opérateur pour pouvoir te connecter. Mais
vous pensez avec Starlink maintenant, tous
les choses vont s'arranger. Si eux là, ils vont nous servir encore un autre menu plus alléchant, c'est le moment de le faire. Mais s'ils ne peuvent pas le faire, les gens vont se diriger vers
là où c'est meilleur.
Là où même si je mets mon argent, quand même je sais que mon travail sera bien exécuté. Et le gros problème, c'est que ces opérateurs de téléphonie mobile ont joué sur la conscience des Nigériens pendant toutes ces années-là. Où même le plus pauvre Nigérien est obligé d'aller mettre 200 francs pour pouvoir naviguer. Mais maintenant, peut-être que c'est fini.
Peut-être que c'est fini. Je vous donne la parole.
Il donne des crédits gratuits.
Mais c'est des crédits empoisonnés.
De 100 000, de 500 000, en fonction à des autorités. Ils donnent, par mois, 500 000. Mais alors, quand on assiste à des choses comme ça, ils s'en foutent. Je me rappelle, le défunt Ben Omar avait dénoncé, à l'époque, il avait dénoncé cette situation-là. Alors, Est-ce qu'on doit continuer? Mais cette compagnie-là, c'est par satellite.
Oui, donc voilà ce que le ministre a dit. Cette solution, c'est-à-dire Starlink, promet une couverture étendue atteignant même les zones les plus reculées et les plus isolées, et cela à moindre coût. Selon les propos du ministre, pour $40, vous avez un abonnement mensuel. $40 équivalent à 24 000, 25 000 francs. Selon vous, est-ce que c'est abordable pour un Nigérien?
Non, ce n'est pas tout le monde qui peut prendre. Bon, c'est ce qu'il a avancé, lui, le ministre, n'est-ce pas? C'est ce qu'il a dit. Peut-être $40, c'est beaucoup pour... Hein, n'est-ce pas? C'est beaucoup pour le citoyen lambda nigérien. Mais quand on fait le rapport, ça veut dire qu'il y a des coûts moindres. Où vous pouvez recharger, vous pouvez avoir accès. La difficulté, souvent, la difficulté, ce n'est même pas lié au coût, mais l'accessibilité. Parce qu'il y a des moments où tu n'as pas la connexion.
Et tu as perdu l'argent.
Et tu as perdu l'argent. Tu as mis ton argent, tu as acheté des crédits, et tu ne peux pas faire le travail que tu dois faire, que tu dois envoyer, parce que tout simplement...
Il y a la lenteur.
Il n'y a pas de lenteur, il n'y en a même pas. Il n'y a même pas connexion. C'est ça la plus grosse difficulté. Ici, c'est un truc de satellite. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de machin, comment on appelle ça, les réseaux, les trucs. Les antennes, là.
Donc ça, c'est dans les selles.
Non, mais ça, c'est là-bas. C'est là-bas. C'est pas quelqu'un. Mais... C'est tombé en panne. Il n'y a personne qui sort pour te dire, voilà le problème. C'est ce qu'on vit. Avec ses opérateurs, tous ceux qui sont un. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Tu sors de Niamey, à partir d'une zone, tu n'as plus la connexion.
Moi, chez moi, tu n'as plus la connexion.
Mouna, vous voulez aussi ajouter quelque chose avant de donner la parole à
Bali. Je voulais juste dire qu'on est en train de crier pour dire que c'est bon, mais il faut également qu'on se dise certaines vérités. Il ne faut pas qu'on utilise ça aussi. Dans un autre sens.
C'est-à-dire
dans un autre sens. Quand je dis dans un autre sens, il ne faut pas que ça serve aussi de moyen d'espionnage. Hein. Il faut que les choses soient claires. Parce que nous, si on a applaudi, il faut également émettre des réserves. Hein. Alors, il faut d'abord essayer de voir comment les choses vont se passer.
Lors de la ceinture, le ministre a rassuré quand même qu'ils ont pris toutes les dispositions qu'un opérateur doit prendre pour que... Cette société se conforme.
Tanane, si moi je veux, est-ce que je ne veux pas venir raconter ce que toi tu veux que tu... Je veux que tu entendes. C'est ça le gros problème. C'est l'information, c'est la communication. Le ministre n'a fait que la communication.
Voilà, le ministre n'a fait que la communication selon Memona Jado. Hassan Abba, d'aucuns pensent que Starlink est surtout destiné aux entreprises, aux institutions et aux ménages qui ont une bonne capacité financière et qui aspirent à avoir de l'Internet au débit. Est-ce que vous partagez cela? Ou bien Starlink, c'est pour tout le monde?
Je pense que le coût fait que déjà, avant Starlink, Internet, ça a quand même un coût. Hein. Là, quand on dit que, quel que soit ce que vous prenez, vous le perdez tout de suite, vous n'avez pas satisfaction, il y en a quand même qui essayaient de mettre beaucoup plus d'argent pour être un peu à l'abri de certains désagréments. Donc, quand vous voulez l'avoir avec plus de fluidité, ça a un coût. Et donc là, par exemple, je suis convaincu que ça va être très utile pour les services, par exemple les entreprises, les sociétés, mais c'est aussi parce que ces entreprises ont une forte consommation. Par exemple, vous faites des réunions en ligne, vous faites des formations en ligne. Je pense par exemple aux écoles, à l'université, aux instituts qui peuvent avoir des enseignants qui sont dans d'autres pays, sur d'autres continents et avec lesquels ils collaborent. Donc là, évidemment, vous demandez Internet grand débit. Et donc, eux, ils vont beaucoup tirer au profit de ça. D'abord, ils ont les moyens financiers pour obtenir. Parce que là, ce qu'on dénonce, ce n'est pas que les gens ne dépensent pas de l'argent. On dépensait de l'argent sans avoir satisfaction. Là, on peut penser qu'avec Starlink, ceux qui mettent les moyens, ils auront la satisfaction. Et donc, forcément, les entreprises, les sociétés sont censées avoir une meilleure couverture, un meilleur accès à Internet. Donc, maintenant, même de plus en plus, Internet occupe une place importante dans la vie des professionnels. Même en tant qu'individu, vous avez des gens qui peuvent mettre les moyens qu'il faut pour avoir Internet. La preuve, là, vous avez des gens qui dépensent des dizaines de milliers de francs actuellement avec les sociétés sans obtenir les
satisfaction.
24 000 à 25 000 francs, est-ce que selon vous c'est cher?
Je pense que ça dépend de l'usage que vous faites d'Internet. Si pour vous ça fait partie de votre travail, vous communiquez par Internet, vous communiquez avec vos partenaires, évidemment vous allez l'essayer. Et je pense que même dans le contexte actuel, encore une fois, il y a des gens qui dépensent aujourd'hui par mois plus que ça hein, pour un caddie, pour un service, oui, pour un service de moindre qualité. Et donc là, avec une bonne qualité, à mon avis, forcément, ça va intéresser beaucoup de gens dans ce pays.
Moi, je pense que 25 000, s'il y a, par exemple, autour de la table là, ou bien en dehors même de la table là, des gens qui peuvent bénéficier, c'est déjà bon, puisque c'est collectif. Donc, ça, le coût, moi, je pense que pour une société, une entreprise, c'est vraiment acceptable. C'est considérable.
Mais Mona, ça dit, j'ai mis mon argent, j'ai pas le service. Ou j'ai mis mon argent, j'ai le service de qualité. C'est pas la même chose. Mais on est dans cette situation avec les opérateurs qui sont sur place. Tu vas mettre. Tu n'as pas, on te dit, les réseaux. Tu ne sais même pas pourquoi les réseaux.
Tu te lèves un bon matin, tu vois que les réseaux du matin jusqu'à 10h, 11h, il n'y a pas de réseau qui monte.
Voilà, les réseaux d'or. Avant d'entamer la dernière et la troisième partie de ce forum, nous allons marquer une petite pause. La troisième partie de ce forum de la presse et qui est la dernière partie, c'est relativement à la disparition d'une figure majeure de la politique nigérienne, Ahmadou, l'ancien premier ministre du Niger, qui fut également l'ancien président de l'Assemblée nationale, Hussein Issa. Ahmadou est décrit comme un homme d'État. Quel était le poids politique du défunt?
Pour parler d'Ahmadou, moi j'ai critiqué des gens qui l'ont attaqué, qui l'ont harcelé. Ahmadou a deux faces. D'abord, une face où celui qui a sauvé le MNSD à la conférence nationale souveraine. Tout le monde l'a reconnu. J'ai causé avec des gens, depuis pratiquement des gens qui sont plus de ce monde-là, qui ont reconnu ses vertus, comme Sao Marankan et Bachar. Ils sont plus de ce monde-là. Et sur Bachar, quand ils te parlent de Ahmadou, ils te disent: en matière d'intelligence politique, si tu cherches quelqu'un, tu arrives à Ahmadou, tu t'arrêtes. Il est plus intelligent que tous tant qu'ils sont. Ahmadou a été contesté, longtemps contesté, au sein de la société. La société politique, je parle, il a été beaucoup contesté. Il a aidé beaucoup de gens, souvent dans l'ombre, n'est-ce pas? Sans sortir ouvertement à dire j'ai fait ou ceci, cela. Il a beaucoup aidé. Il a soutenu des gens en les faisant venir au pouvoir. Et après, ils se sont retournés contre lui. Voilà la figure que je retiens du personnage. C'est quelqu'un, de l'extérieur, tu as l'impression qu'il est, comment on appelle, il est mauvais. Mais quand il approche, il a un comportement consistant à dire, je peux t'aider à être, mais je ne vais pas t'encourager à voler. Si tu voles, tu vas répondre de tes actes. Mais je peux contribuer à te propulser pour que tu puisses trouver là où tu peux manger, n'est-ce pas? Il a fabriqué, y compris, des opérateurs économiques. Mais, à tes risques et périls, le jour où tu vas être confronté à une situation, je ne suis pas là pour te défendre. Voilà un monsieur qui a aidé beaucoup de gens à être ce qu'ils ont été. Il les a aidés, à commencer d'abord par, j'ai dit, le sauvetage du MNSD à la conférence nationale souveraine. S'il n'était pas dans la salle de la conférence nationale, le MSD allait être éparpillé, allait disparaître.
Hassan Abba, qu'est-ce qu'on peut retenir de la vie politique de ce grand homme d'État?
Comme Hussein l'a dit, c'est quelqu'un qui a marqué la vie politique de ce pays depuis la conférence nationale. Sur une trentaine d'années, Hamma a été de toute l'élite politique dans ce pays. D'abord au sein du MNSD, qu'il a porté deux fois à la victoire, puisque Hamma était quand même un des principaux artisans de la victoire de son compagnon de parcours à l'époque, le président Tanja. Hamma l'a prouvé aussi en créant le parti Lumana. Je rappelle qu'en 2016, il était le deuxième, n'est-ce pas, alors qu'il était en prison aux élections. Hamma a été régulièrement élu. Il a vraiment gravi des échelons, hein, depuis l'administration territoriale, le cabinet du président du CMS, parlementaire, ministre, premier ministre, président de l'Assemblée. Je pense qu'il ne restait à son arc qu'une seule corde, hein. C'est la présidence de la République. Il ne manquait que cela. Donc Hamma a connu vraiment ces moments de gloire. Il est une vraie bête politique, comme ça a été expliqué. Il s'est battu sur le terrain politique. Il a connu aussi beaucoup d'adversités. Le terrain politique, c'est vrai, a ses réalités. Parfois, il l'a emporté sur ses adversaires. Parfois, il a pris des coups, notamment avec la situation que Hussein a rappelée tout de suite, où il a connu la prison, il a favorisé l'arrivée du PNDS au pouvoir avant de se voir vraiment maltraité, humilié, j'allais dire, dans ce partenariat. Donc, ça a été un moment, j'imagine, difficile pour lui, là, parce que au-delà de sa personne, et ça c'est assez rare, et c'est peut-être les choses que beaucoup de Nigériens ont dénoncées à l'époque, l'adversité allait jusqu'au foyer, comme s'il n'y avait aucune ligne rouge dans l'adversité politique, quoi. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment connu ses heures de gloire, Hamamadou. Il sait aussi se relever, hein, quand il tombe. Là, Hussein l'a rappelé, pendant la conférence nationale, pour ce qu'on appelait les forces démocratiques à l'époque, les syndicats, l'USN, le MNZ représentait presque le mal absolu. On voyait le parti unique sur lequel on portait tous les maux de ce pays. Et à la conférence, il fallait carrément leur arracher le pouvoir. Donc, ce qui a été presque fait. Mais petit à petit, à partir de 1999, ils ont repris le pouvoir. Je me rappelle aussi de cette motion de censure en mai 2007 qu'il a fait tomber. Alors, je me rappelle de sa réaction ce jour-là quand il est tombé à l'Assemblée. Il ressemblait à quelqu'un qui a tout perdu. Mais petit à petit, il a gravi les échelons, il est remonté, il a créé l'Oumana SIC. Là, dans le Parlement qui vient d'être dissous, l'Oumana a compté une vingtaine de parlementaires. Comme quoi, autour de sa personne, il a toujours su créer des alliances qui lui ont permis de gagner en politique. Donc je pense que c'est vraiment une figure majeure de la vie politique qui change aujourd'hui. Il va laisser un grand vide, à la fois pour ses partisans, mais aussi pour ses adversaires, puisque sur le terrain politique, Hamma a été quelqu'un de très présent pendant ces dernières années.
Maimouna, quels sont les souvenirs que vous gardez du défunt? Est-ce qu'aujourd'hui, dans la génération présente et future, est-ce qu'il sera possible de trouver un Hamma Hamadou?
Les souvenirs que je tiens de Hamma Hamadou, puisque je vais me mettre dans la peau de journaliste, c'est son franc-parler. C'est-à-dire qu'il il fait un point de presse où il ne mâche pas les mots. Il explique terre à terre ce qu'on attend de lui, ce qu'on lui a fait. Et c'est un bon communicateur. C'est-à-dire que quand tu l'as devant toi, tu n'as pas besoin, en tout cas, de te décarcasser la tête pour pouvoir faire sortir ton article ou un résumé. Et c'est quelqu'un qui aime les hommes de médias, en fait. Partout où il est, il a toujours communiqué avec les hommes de médias. Sa porte est grandement ouverte, en tout cas, pour tout médias, tout journaliste qui aimerait le connaître davantage ou discuter avec lui sur les questions brûlantes de l'actualité.
Mais est-ce que vous pensez dans la génération présente et future, on peut trouver quelqu'un, trouver un Hamma Hamadou?
Ne pourrais dire si oui ou non, on ne peut pas trouver quelqu'un de la trempe de Hamma Hamadou, mais ça serait un peu difficile. Ça sera difficile, mais bon, il a aussi ses élèves qu'il a enseignés. Certainement qu'il y a la relève. La relève.
Vous croyez vraiment qu'il y a la relève?
C'est ça, je dis. Je dis que certainement il a eu le temps de forger parmi des jeunes qui peuvent, en tout cas, faire la même chose ou même plus que ce qu'il a fait, parce que aujourd'hui c'est la relève, c'est ça qui compte le mieux. On doit être enseignant, mais il faut avoir aussi à côté quelqu'un, un élève qui aura plus de facultés, plus d'intellectuel que toi. Donc je me dis que si on regarde de plus près, peut-être que les jours à venir, on aura un jeune qui pourrait suivre les pas de Hamma Hamadou. Et ce que je sais, c'est que si aujourd'hui il y a un jeune qui peut en tout cas subir tout ce que Hammam a subi. C'est ça où je me dis que ça serait un peu difficile. Parce que Hammam, il a subi tout ça, il a refusé en tout cas de changer de veste. Il a refusé parce qu'il avait l'amour de son pays, le Niger. Tout ce qu'il a fait, c'était juste pour que le Niger puisse avancer dans de très bonnes conditions. L'avenir du Niger le préoccupait plus que son propre avenir à lui.
Que son âme repose en paix. Nous sommes à la fin de ce forum de la presse du studio Kalangou. Nos remerciements à nos invités, Hassan Abba, journaliste à la radio alternative, Hussein Issa, vous êtes journaliste indépendant, et merci à vous également, Mémona Jadot, vous êtes journaliste indépendante. Moi, Tarlan Foudahmed, j'ai assuré la modération de ce forum. La technique a été assurée par Amina Hassan. Très beau week-end à tous.